tasti wai amuya sip hanyani hutaski wai
kaha chauru hutaski wai amuya sip hanyani hutaski wai
tak pachanya kinakasti amuya sip hanyani tukusini
tak pachanya kinakasti amuya sip hanyani tukusini tatana mama naka kaha chauru hutaski wai
Chers auditrices, auditeurs de cette émission, de cette nouvelle émission des Vents de l'Amérique latine, et je tiens à vous remercier pour votre écoute et surtout remercier à Manu
et Dorian, de nada,
qui m'aide à la technique, à Radio San Ferriol. Pour écouter, oui, pour permettre de parler avec la voix, pour quelques réflexions sur l'Amérique latine. Aujourd'hui, je souhaitais parler d'abord, parce que c'est le 8 mai et demain le 9 mai, donc l'anniversaire, les 80 anniversaires de la défaite du régime nazi, du gouvernement nazi, et puis parler aussi sur la diversité et toute la richesse qu'il y a en Amérique latine, et qui, avec tous ces peuples, toutes ces surfaces, et en parlant de surfaces, la plus importante de l'Amérique dans son ensemble. Si on part du Mexique jusqu'au Brésil, Chili, Argentine, etc., c'est un continent dans lequel il y a des peuples originaires, nos peuples ancestraux qui sont là, mais souvent mis en deuxième plan, en deuxième catégorie, quand on parle de l'Amérique. Tout de suite, on va faire l'amalgame avec les États-Unis. Et donc, les véritables peuples de ces continents sont mis dans l'ombre. Et puis, on va parler aussi donc toute cette diversité. Et on va parler sur les concepts de colonialité qui persistent aujourd'hui. Et un très bon ouvrage de M. Aníbal Quijano, qui est un sociologue, historien péruvien, qui parle que la colonialité n'est pas disparue avec l'indépendance, et avec les pouvoirs de l'envahisseur espagnol ou portugais qui est parti, mais que persiste sous différentes formes. Donc, c'est le contenu de cette émission.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá de pie. Patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando
pensar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
Aujourd'hui, 8 mai, demain le 9 mai, ça fait penser en effet à, en lien avec la chanson Le peuple uni jamais sera vaincu.
Un véritable hymne de manif.
Hymne de manif, de lutte, parce que la défaite des 6 oppresseurs du gouvernement de Vichy ici en France, de l'organisation et du pouvoir nazi, ça a été fait face à la mobilisation politique, idéologique et militaire des peuples. Ça nous fait penser à la résistance ici dans la Drôme, par exemple dans les plateaux Vercors, et la résistance en Albanie, dans différents pays, et surtout ces 25 millions des soviétiques, hommes, femmes, enfants, etc., qui ont donné leur vie, justement, dans cette aveugle vision d'oppression qu'ont fait les nazis, qui rêvaient de prendre l'Union soviétique dans son ensemble, définie avec le communisme. Bien sûr, un de ces sociétés était deux. Nous finir avec les juifs et en finir avec le communisme. Mais surtout le communisme, parce qu'il était capable de faire une autre alternative sociale politique. Donc le 8 mai et le 9 mai, c'est commémoration de la victoire de cette force qui se sont battues pour la libération, pour la liberté, les droits du peuple. Et seulement une petite question, puisque on est dans l'émission sur l'Amérique latine, est-ce que les nazis étaient vraiment finis? Au niveau idéologique, il y a encore subsiste des idées de ce type d'aujourd'hui pour opprimer, pour exploiter, pour enrichir une minorité. Mais je voudrais mettre l'accent sur Klaus Barbie. Klaus Barbie, qui était l'oppresseur qui avait son point de siège ici en France, à Lyon, responsable de la déportation et de l'extermination de milliers de personnes, et parmi lesquelles Jean Moulin. Alors, Klaus Barbie, comme d'autres chefs nazis, apparaissent en Amérique latine. Nous, Mengele au Brésil, au Paraguay, il y avait Rosman, et plus d'une dizaine de chefs nazis qui sont... Et ce n'est pas parce qu'ils se sont échappés, parce qu'ils étaient en pleine connivence avec le pouvoir politique, avec les États. Pinochet, dans ces massacres, dans son pouvoir, il était bien épaulé par des membres nazis. Et puis vient le plan Condor, établi par les États-Unis, la CIA, qui a mis des dictateurs et des militaires pour écraser la révolte, parce que ce peuple latino-américain, comme dit la chanson du qu'on a mis en générique au départ, la chanson qu'on a écoutée, qui la payon el pueblo jamás será vencido, luttait pour une véritable indépendance. Et donc, et ça, c'était pas dans les bons goûts dans les spectateurs des États-Unis. Et donc, Klaus Barbie était au Pérou, il avait une entreprise, il était lié aux affaires avec d'autres nazis qui résidaient au Pérou, et jusqu'à un problème qu'à l'intérieur de la classe dominante, il y a un monsieur qui était un gros capitaliste, un monsieur Luis Banchero Rossi, d'origine italienne, qui apparemment, il y avait une dispute entre les deux pour des affaires politiques, économiques, certainement. Et donc, Banchero Rossi, qui était dans la pêche industrielle et tout ça, a paru mort. Et donc, tous les éléments montraient qu'était la responsabilité de Barbie. Suite à ça, ils partent en Bolivie. Et en Bolivie, ils soutiennent les gouvernements militaires, les dictatures, qui étaient à la fois soutenues par la CIA des États-Unis, face à un danger de révolte. Rappelons-nous que les années 50-60, dans le monde des luttes anticoloniales, des luttes révolutionnaires, il y a eu le Vietnam, il y a eu le Cambodge, il y a eu Corée, il y a eu la Chine, qui en 1949, c'était une république socialiste, et il y avait des luttes anticoloniales en Algérie, un peu partout dans le monde, et les États-Unis, il craignait tout ça et que la mèche puisse s'allumer en Amérique latine. Et donc, ils ont eu une conférence en Uruguay. Et ils ont établi, avec tous les gouvernements de l'Amérique latine, ils ont établi un plan, soi-disant, pour régler les problèmes agricoles, les problèmes de la terre, parce qu'il y avait encore la féodalité, où il y avait beaucoup de luttes pour la terre, et donc qu'il fallait faire une réforme agraire et tout ça. Et donc, les États-Unis étaient partie prenante de cette situation, et pour, non seulement avec son plan de l'Alliance pour le progrès qu'ils ont fait à Punta del Este en Uruguay, mais aussi avec les plans Condor, qui c'était des gouvernements militaires avec une répression plus expéditive et plus forte.
Le plan Condor, en fait, on parle de l'Argentine, le Chili, l'installation des dictatures.
L'installation des dictatures en Uruguay.
En Uruguay.
Non, aussi au Brésil.
Au Brésil.
Et ce plan Condor aussi a eu des actions au Pérou. Non, parce qu'au Pérou, il y a les années 62, 63, 65, il y a eu des soulèvements révolutionnaires, d'avaler la Convention avec Hugo Blanco, le mouvement de gauche révolutionnaire à Ayacucho, l'armée de libération nationale, qui c'était des groupes de guérilla que l'État, avec le soutien des États-Unis, ont achevé presque immédiatement dans l'espace de 3 ou 4 mois. Et donc, situation, il y a eu des élans aussi révolutionnaires en Bolivie. Il faut se rappeler que Che Guevara était allé en Bolivie et que dans cette lutte aussi, ils sont soutenus pas seulement des Cubains, mais aussi il y avait des différentes nationalités de l'Amérique latine qui luttaient avec Guevara. Et bien, ça n'a pas réussi, une lutte qui s'est développée très héroïque, mais qui n'a pas ça n'a pas réussi. Donc, pour cette partie du 8 mai, pour se rappeler 8 mai, du 9 mai, je voulais mettre l'accent sur que si bien l'Allemagne nazie, Hitler, tout ça a été battu, mais pas tous, et que la CIA et les États-Unis sont bien récupérés en contingent des gens qui avaient l'expérience et l'idéologie pour freiner les élans révolutionnaires, justement en Amérique latine. Et un petit point, c'est le macartisme. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, ils ont allé avec un plan macartiste et qui s'est enregistré dans tous les annales de la presse et aussi de la littérature sociale, scientifique. Voilà. Ces petits points.
Il se fait attraper quand, Barbie ? Dans les années 80, c'est ça ? Il se fait juger dans les années 90, je crois, son procès ? Tu sais ?
Barbie est parti du Pérou les années 70, en Bolivie, et puis c'était un travail qui a fait, je crois que c'est dans les gouvernements socialistes à l'époque, et qui, en effet, il tenait à prendre Barbie, qui était en Bolivie, officiellement bien gardé par le gouvernement bolivien, et de le ramener ici en France pour le faire en procès. Parce qu'il avait une forte dette par ses actions d'oppression et génocide à Lyon. C'est la chanson qu'on vient d'écouter. Ça fait penser, la Pampa en général, ça fait penser à l'Argentine qui a des instances pleines de pas très hautes, avec beaucoup d'agriculture et tout ça. Et la Puna, ça fait penser plutôt aux montagnes des Andes, des plateaux, des hauts plateaux. Bien. Alors, je vous parlais de ces sous-continents, on dit, d'une partie du continent américain, qui a été envahi, on dit colonisé, c'est vrai, ils ont établi un pouvoir colonial, tant le Portugal comme l'Espagne, à partir de 1492. Et jusqu'à... Bon, donc, Il y avait une population dans cette région assez grande, assez énorme de peuples. Des peuples qui ont développé plutôt une façon de vie et de travail basée sur l'organisation collective. Il y a quelques peuples qui ont développé plus le collectivisme, que ça a été les Incas, par exemple, et qui, face au travail collectif, ils ont réussi à faire des constructions, à développer l'agriculture, à sélectionner des plantes alimentaires. Que on dit que les 70% des produits agricoles qu'on mange, qu'on a dans les assiettes, ils viennent de là-bas. Pas seulement du Pérou, mais de toute l'Amérique, sur le maïs du Mexique, toutes ces régions. Parce que l'Amérique latine a une diversité de climats, une diversité d'altitudes. Par exemple, à 2500 mètres, il y a des fruits, il y a des vallées, des cultures agricoles assez fertiles. Donc, à 8000 mètres, il y a aussi des fruits, il y a d'autres vallées qui s'adaptent. Mais en même temps, il y a les hauts plateaux avec ses alpacas, ses vigognes, ses lamas et tout ça. Et puis, en descendant de l'autre côté des Andes, il y a l'Amazonie avec une diversité de faunes, de flores, et que aujourd'hui, il faut le signaler, aujourd'hui est en train d'être déforesté, en train d'être détruite, justement pour obtenir le plus de bénéfices aux plus grands capitaux multinationaux de l'exportation agricole. Donc, il était peuplé par du nord au sud par différents peuples. Citons quelques-uns. En Amérique du Nord, il y avait des peuples comme les Iroquois, les Apaches, les Cherokees, les Creeks, et le Sioux, les Cheyennes et le Pueblos. En Amérique, un peu plus au sud, les Olmecs, les Mayas qui vont du Guatemala au Mexique, et puis les Toltecs, les Aztèques, Zapotecs, etc. Il y a aussi en Amérique centrale d'autres peuples, les Muiscas, Tairoma, et en Amérique du Sud, bien sûr, les Incas, là où il y a une population quechua et aymara, les Guarani, les Tupis, Mapuche, Chimú, Mochica, etc. Donc, ces parties du monde étaient très peuplées avec des cultures qui ont développé énormément. Une émission antérieure, on a parlé de Guatemala, on a parlé des Mayas, on a parlé des Aztèques, et on a vu que même au niveau scientifique, au niveau de l'observation astronomique, solaire, et tout ça, au niveau mathématique, l'écriture, ils avaient développé des choses que d'autres peuples ne connaissaient pas. Il y a un point commun avec la culture arabe, qu'ils ont conçu les cerros du côté maya et de l'autre côté du monde aussi, c'est les arabes qui ont conçu les cerros d'une importance assez grande. Et aujourd'hui, il y a eu cette invasion espagnole, cette invasion portugaise. Il y a eu les luttes pour l'indépendance. mais cette indépendance, est-ce que vraiment c'était une indépendance pour tout le monde? Avec, on peut le dire à 100% que c'était pas une indépendance pour tout le monde, parce que après la débâcle de la domination espagnole ou portugaise, il y a eu d'autres classes que dirigeantes, d'autres classes riches qui ont pris la suite. Alors, il faut signaler aussi que avant 1492, l'arrivée de cette invasion espagnole, il y avait ce peuple d'un côté et les envahisseurs de l'autre. Mais cette invasion a créé et a développé un nouveau groupe social. Et ce nouveau groupe social s'est créé dans les villes qui ont été construites, créées, parce que les envahisseurs espagnols ou portugais, c'était pas une migration avec des familles, c'était pas des familles espagnoles qui sont allées habiter au Pérou, c'était des soldats, des administrateurs, et quelques familles espagnoles de la noblesse, quelques-uns, parce qu'ils avaient des postes comme vice-royaume, des postes administratifs liés à la noblesse espagnole. Mais les 99%, c'était des soldats, des administrateurs qui allaient sans famille et donc qui ont eu ces enfants avec nos arrière-grand-mères, nos mères, les femmes de notre peuple ancestral. Et donc, c'est créé à nouveau un groupe social qui n'existait pas et qui habitait plutôt dans les villes, pour lesquelles l'Espagne, la noblesse espagnole, le pouvoir espagnol avait une préoccupation assez grande, préoccupation dans le fait que cette population puisse rejoindre la population de ses origines pour se soulever contre la domination espagnole. Alors, il y a eu, dans les villes, se sont empressés à instituer et mettre toutes les structures qu'il y avait à cette époque, la colonie espagnole, et particulièrement les églises. Ils ont construit des églises, des cathédrales, des couvents et une administration. Et là, je viens à l'autre partie que je voulais mentionner, c'est une vision coloniale de notre propre peuple. Comment cette vision des méprisantes, des indiens, indios, des autochtones, comme des gens d'un deuxième ou troisième niveau, étaient aussi pratiqués par les gens de ville qui étaient ici, qui avaient ses racines dans la population ancestrale. Et c'est quelque chose qui existe jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de personnes, bien que physiquement, dans la physionomie, ils n'ont rien d'européen, mais ils vont mépriser avec les mêmes critères, la même vision, nos peuples ancestrales, pour adhérer au pouvoir politique. Bien, on va faire une petite pause musicale.
Saber, ahí vamos a ver. donde la sangre del pueblo ahí se derrama, donde la sangre del pueblo ahí se derrama, allí distrito florece. Hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Están los hinchis entrando, están por cinco esquinas, están los hinchis entrando, están, van a matar estudiantes, guantinos de corazón, amarillito, amarillito.
Continue avec notre émission. Et la chanson qu'on vient d'écouter, c'est une chanson créée en Ayacucho, qui la chante Martina Portocarrero, que j'ai eu la possibilité de faire connaissance. Une chanteuse qui tenait toujours à chanter une musique du peuple. Il parle de cette chanson, il vient de parler des mesures qu'avait fait l'État pour privatiser l'éducation. Et donc, si les parents, si on voulait que ses enfants soient éduqués ou aillent à l'école, il fallait payer. Et donc, à Ayacucho, il y a eu un très fort rejet de cette mesure. Et qui a fait évidemment une répression avec des morts. Et cette chanson, il parle justement que le sang du peuple a été versé, mais qui s'y sent un très bon parfum des marguerites, des violettes et d'autres fleurs, mais aussi le parfum de la poudre et de la dynamite, c'est-à-dire le parfum de la révolte. Bien. Alors, on continue avec notre mission. Et on parlait qu'il y a une, diversité, une très grande diversité géographique. On a parlé des six étendues brésiliennes, les Andes, et tout ça. Et une diversité culturelle, parce que chaque peuple, bien qu'il y a eu cette invasion, chaque peuple tient jusqu'à aujourd'hui sa culture. Et une culture qui s'exprime dans la musique, dans les chants, dans les contes, et la façon de voir le monde. Par exemple, il y a beaucoup d'élus jusqu'à aujourd'hui qui, dans la culture ancestrale, on ne peut pas commencer à boire quelque chose si on n'a pas mis quelques gouttes d'abord, en premier, à la terre. On peut se rappeler, vous se souvenir des gens qui sont plus là, qui ont décédé. Ben, on va regarder plutôt les montagnes, parce que dans cette culture, les gens, quand ils décèdent, ils vont pas au ciel, ils vont là, dans les montagnes, et ils sont là qui habitent. Donc, et cette culture, cette vision n'est pas la même pour les Mapuches, qui ont d'autres visions. Les Mapuches, par exemple, il y a les dames qui soignent les gens avec des herbes et tout ça, mais aussi avec des chants. Et que les gens continuent à les consulter, bien qu'ils peuvent aller consulter aussi un médecin ou dans des villes. Et en Amazonie, il y a une autre culture, et en parlant des santé, par exemple l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une herbe, et les gens qui soignent avec l'ayahuasca, ils boivent. Il y a une boisson d'ayahuasca qui fait boire aussi à la personne qui a des douleurs, des problèmes de santé. Et les guérisseurs et la personne, ils vont rentrer dans une situation de communication, on peut dire, spirituelle. Toujours est-il que les guérisseurs avec l'ayahuasca, ils savent de qui est en parlant, il sait de quel problème de santé il a, les consultants. Et donc, il va lui donner des herbes, d'autres choses pour se soigner. Et un point qu'aujourd'hui existe dans la région d'Iquitos de l'Amazonie, une clinique qui est gérée par un Français et qui prend cette culture de l'ayahuasca. Au Guatemala, au Mexique, il y a d'autres traditions, d'autres visions culturelles. Donc, tout ça nous relève comment ces peuples, que dans tous nos peuples, il y a une vision de développement, culturel, économique et de la régionale qui n'est pas mis en place parce que le concept de développement, c'est un concept qui tient aux classes dominantes. Et les classes dominantes, non, donc les grosses entreprises minières, pétrolières, gazifières, financières, plus la bourgeoisie intermédiaire entre ces grands capitaux et une bourgeoisie intermédiaire qui gère aussi plus directement les affaires au pays, et plutôt ils vont voir le développement comme plus d'investissement, plus d'extraction et donc plus de revenus pour eux. Non ? Et ils ne vont pas voir le développement comme les besoins qu'une population puisse gérer. Et ces principes sont même soulignés par les Nations Unies dans les droits au développement du peuple, qu'un peuple il doit en premier lieu être maître de ses ressources, de son territoire, de ses ressources naturelles et de son plan de développement qui puisse profiter à la population toute tout entière. Et donc, et c'est un des points à résoudre, et c'est un point qui marque aussi la vision qui s'impose, une vision coloniale. Et bien qu'il y a eu cette indépendance, mais une vision qui montre qu'avec avec les choses qui sont en place dans le monde, les classes dominantes regardent plutôt ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe, ce qui passe dans les systèmes financiers dans lesquels ils sont liés, ils sont encastrés. Et puis, ça va avoir des répercussions dans l'organisation de tout l'appareil de l'État, de ses lois, de la justice, et parce que tous les jours, ou plutôt je veux parler des statistiques qui existent au Pérou, de la Défensoria del Pueblo, et en traduisant en français, on peut dire un organisme de défense du peuple, c'est un organisme de l'État qui répertorie constamment tous les conflits sociaux qu'il y a dans le pays. Et donc, systématiquement, ça tourne autour de 120 conflits par mois, conflits sociaux. Et c'est quel conflit? Parce que les mines, quand ils commencent l'extraction ou quand ils vont s'installer, ils déplacent les populations. Et ensuite, ils prennent l'eau, ils prennent les rivières, les lacs, et pour l'extraction, une fois qu'ils sont extraits la roche, ils ont besoin d'avoir des concentrés, et pour avoir ces concentrés, ils vont utiliser des produits chimiques. Et c'est une fois qu'ils ont obtenu les concentrés sont expatriés, sont exportés, on va dire, et le reste, tout contaminé et jeté sans aucun problème dans les rivières, dans les lacs, dans ce qui reste. Et donc, il y a une contamination assez grandissante de la nature, ce qui provoque en effet, et à injustice, la défense et la lutte contre ces opérations. Et donc, pour limiter cette contestation, parce que la Banque mondiale a déterminé que les plus grands obstacles qui ont les capitaux extractifs dans le monde, c'est quand il n'y a plus de paix sociale et quand il n'y a plus de continuité de la politique de l'État. Et donc la paix sociale, c'est un problème énorme pour ces multinationales. Parce qu'une protestation va couper des routes, va altérer les bons fonctionnements. Et donc les États, comme aujourd'hui en Argentine, mais déjà établis au Pérou, en Équateur, et au Salvador et dans d'autres pays, ils considèrent que le développement, ce type de développement, est lié à la défense nationale et à la sécurité nationale. Et donc, il y a des lois pour défendre la nation, la sécurité nationale et le développement. Et les défendre avec quoi? Les défendre avec des mesures, comme il parle, une, des neutralisations, d'autres, d'emprisonnement, et la dernière, des éliminations. Et c'est écrit noir sur blanc. Pour ceux qui nous écoutent, je les invite à consulter les journaux officiels du Pérou qui s'appelle El Peruano, dans lequel il peut consulter sur la question de l'exploitation minière, qui s'appelle des biens stratégiques, dans lesquels, pour garantir qu'il n'y ait pas de perturbation à tout ça, c'est l'armée, les systèmes de renseignement. Et quand on dit déneutralisation, c'est l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que les procureurs qui sont en place, ils vont convoquer les gens qui sont représentants de la population, pour l'ouverture des procès. Ça, c'est essayer de neutraliser. Donc, le procès ouvert, les gens, pour éviter que les gens continuent à bouger. Mais si continuer avec la protestation, ça vient la question de l'emprisonnement. Donc, l'appareil judiciaire fait que les gens qui ont été en procès soient incarcérés. Et avec des lois qui qualifient toutes ces mobilisations, toutes ces protestes comme du terrorisme. Donc, et sinon, si la proteste continue, comme c'est arrivé, je vous invite à consulter les problèmes sociaux 2023, janvier, février, mars, il y a eu plus de 70 morts parce qu'il y a eu de fortes protestations, mouvements de protestes au niveau national. Et puis, comme c'est une question de développement, sécurité nationale et défense nationale, c'est l'armée. Et l'armée, il réprime avec quoi? Il réprime avec des balles. Et donc, c'est le dernier niveau. Donc, l'élimination. Voilà. Bon.
Caminito del indio, sendero colla sembrao de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
On arrive à la fin de notre émission. Je veux dire que en ce moment, il y a une continuation des luttes qui ont été un peu en reflux les dernières 10-15 années, mais que cet espoir ou pas seulement ces besoins d'organiser une économie, une culture en fonction des intérêts du peuple continue toujours au premier plan. Et ça continue depuis 500 ans. Et donc, il y a eu des luttes toutes les années 1900-1990. Il y a eu des mouvements révolutionnaires et des résistances un peu partout. Et ça nous fait penser... Ça fait penser au mouvement au Brésil, Los Sin Tierra, ça fait penser à Oaxaca, ça fait penser à l'Amérique centrale, ça fait penser à tous ces mouvements révolutionnaires aussi, par la voie de la guérilla qui se sont développés. Mais il faudrait, à mon avis, ça va arriver à une nouvelle étape de lutte vraiment plus organisée, plus développée, surtout que maintenant on a M. Trump qui est ouvertement anti-latino-américain. Il faudrait expulser nous aussi ces grosses entreprises, ces mines, mais avoir le pouvoir pour le faire. Et il a le pouvoir d'expulser. Il faudrait que nous aussi, en Amérique latine, on puisse avoir pas seulement le pouvoir d'expulser, mais qu'il y ait le pouvoir et la possibilité de développer une autre économie, une autre culture, une autre organisation pour le bénéfice du peuple. Bien, j'invite quelques dernières paroles. J'invite à tous nos écouteurs, les écoutrices, sont dit en féminin.
Les auditeurs et les auditrices.
Auditrices. Et surtout s'ils sont plus sensibles à la question de l'Amérique latine, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, à organiser, et au moins à se rencontrer, à nous contacter. Sur Radio San Ferréol, il y a notre adresse mail et même un téléphone pour, dans un premier pas, nous rencontrer, nous connaître et voir, échanger qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et aussi comment participer dans les émissions qu'on pourrait faire ensemble. Merci beaucoup de votre écoute et merci encore une fois à Manu et
merci
à Radio San Ferréol.
Merci à toi, Ronald. Et bonne fin de jeudi à tous et à toutes.
Quinto ya yo de bonda Hansi ya chanquiño hay vidaita Kay pipas may pipas wajas hayaita Hansi ya chanquiño hay vidaita Kay pipas may pipas ya kis hayaita Sol eclipsa la luna mengua, el sol eclipsa la luna mengua. Pobre delito padezco tanto, yo gacho un carga ni mamá y guajache. Pobre delito padezco tanto, Yoja chungar janita y tayakiche. Hojita redonda de la coca, dime, dime las verdades. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Acaso todos no somos hombres de la tierra? ¿Acaso todos no somos hijos del sol y la luna? Panteón Cunco, fierro rejilla, Cunco chaiquita, quichay cuñaguay, cuyas jay mamaita guajas cunaima. Cunco chaiquita, quichay cuñaguay, guayus jataita y guaytinco y cunaima. Sabes mis verdades, el sufrimiento no me mata, mi corazón es eterno, las estrellas están en mi alma y mi alma entre las estrellas. Entonces la muerte no existe cuando la vida te abraza. Thank you.